trois chercheuses toulousaines participent à un programme de recherche sur la fin de vie, Isabelle Duché.
Fin de vie et soins palliatifs, c'est le projet commun à l'Université Toulouse Capitole, l'Université de Toulouse et l'Oncopole. Deux des chercheuses impliquées sont les invitées de Radio Présence aujourd'hui. Bonjour docteur Marie Bourgoin.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste douleur et soins palliatifs au sein du département des soins de support à l'Oncopole. À vos côtés, Bettina Couder. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous enseignez la biologie moléculaire, biotechnologie et bioéthique à l'Université de Toulouse et vous êtes aussi chercheur au sein de l'équipe bioéthique du Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations. Merci à toutes deux d'être présentes ce matin. Je précise que la troisième chercheuse qui n'est pas avec nous aujourd'hui est Lucie Sourzat. Elle est maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse Capitole. Et on va voir justement ce projet. Il est à cheval entre ces trois matières, hein, la recherche, le droit et la clinique, enfin la formation, pardon. Mm-hmm. Votre projet s'insère dans un programme plus large au niveau national sur la fin de vie. Quel est précisément l'objectif de ce dernier, Bettina Couder?
Alors, la plateforme Fin de vie a lancé un appel à projet sur la fin de vie nationale. Donc, c'était l'année dernière. Leur idée est de faire travailler des chercheurs français sur quatre thématiques en lien avec la fin de vie et surtout en interdisciplinarité. Donc ça, on insiste vraiment sur ce terme parce qu'il est important que médecins, juristes, anthropologues, philosophes, soignants en général, sociologues travaillent ensemble car le patient, c'est avant tout un humain. Hein. Donc on ne peut pas séparer la biologie, sa pathologie de sa psyché, de son environnement familial, son environnement social, etc. Et on doit aussi tenir compte des avancées de la société. Donc, ils ont reçu 77 projets de recherche, enfin, ça de mémoire, je ne suis pas vraiment sûre. Ils en ont retenu 25 et ils ont divisé les 25 projets en 4 consortia, puisqu'on dit consortia, sur la recherche sur la fin de vie. Donc, les 4 consortia sont le premier consortium est souffrance et expérience vécue en fin de vie. Le deuxième, c'est trajectoire et parcours de fin de vie. Le troisième, c'est désir de mort en fin de vie. Et le nôtre, c'est anticipation et planification.
Et donc, en tout, sur ces quatre consortia, ça fait combien de personnes qui travaillent sur la question de la fin de vie?
Beaucoup, parce qu'en fait, il y a des représentants au sein de chaque consortium, mais après, ces représentants, il y a une équipe aussi derrière
eux.
Ah
oui, bien sûr.
Donc, en réalité, alors nous, on est 8. Dans
donc, vous êtes 3 représentantes, et puis derrière, vous êtes 8 en tout.
Alors, on est 8 au sein du consortium anticipation, d'accord, puisque nous, on est 3 de Toulouse, mais on travaille aussi en commun avec d'autres équipes, voilà. Mais par exemple, dans le consortium souffrance, ils sont une quarantaine.
Ah
donc,
oui.
Voilà, chaque consortium est constitué vraiment d'un nombre de membres différents.
Donc, c'est un énorme projet, en tout cas.
Oui, tout à
donc,
fait.
Suite à cette phase d'appel à candidature, le projet commun à l'Université Toulouse Capitole, à l'Université Toulouse et à l'Oncopole a été retenu pour intégrer ce consortium anticipation et planification. Qu'est-ce que vous devez étudier particulièrement, Marie Bourgoin?
Alors, nos projets, ils sont très divers. Ils s'intéressent à déjà, nous, au sein de Toulouse, beaucoup à la question de la cancérologie, mais pas que. Il y a aussi les maladies neurodégénératives, mais c'est vrai qu'on a un gros ancrage de par nos affiliations à la question de la cancérologie. Mais au sein du consortium anticipation, il y a des projets qui sont déclinés plutôt sur une thématique gériatrique, d'autres même au sein de la population générale, d'autres sur des techniques plutôt d'algorithmes et de prédiction, en fait, des outils de prédiction. Donc, c'est des projets qui sont très divers et variés. L'idée, c'est d'arriver à savoir comment anticiper, pour quel type de population, en particulier les populations les plus fragiles. Donc, c'est vraiment très intriqué aussi avec la notion de la vulnérabilité, bien entendu, de la vulnérabilité en santé. Et puis également, pour qui on anticipe. Ça, c'est aussi un axe sur lequel nous, on essaie d'insister parce que l'idée, c'est pas d'anticiper pour le confort, entre guillemets, des professionnels de santé, mais vraiment dans l'intérêt des patients et de leurs proches. Donc, il y a vraiment... c'est compliqué même de décliner l'ampleur du projet. L'idée, c'est d'essayer en tout cas nos projets qui étaient au départ très indépendants, d'arriver à trouver un fil conducteur commun et de pouvoir travailler ensemble sur des données, mais des populations qui seront différentes, mais une méthodologie de travail qu'on essaie d'avoir commune.
Et cette anticipation, pour vous, elle est importante parce qu'en fait, anticiper l'accès aux soins palliatifs, ça permet de ne pas les réserver seulement aux personnes en fin de vie. C'est ça votre, votre intérêt?
Oui, ça c'est très important. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, la thématique des soins palliatifs, elle est souvent limitée à la question vraiment de la toute fin de vie. Alors si on parle de la question de la cancérologie, c'est vrai que souvent, malheureusement, l'intervention des équipes de soins palliatifs, même sur le plan national comme international, ça intervient dans les 3 derniers mois de vie des patients, presque dans le meilleur des cas, alors qu'on recommande d'intervenir théoriquement bien en amont. Alors pour la cancérologie, théoriquement, ça devrait être entre 6 et 24 mois avant le décès. Donc on est très très loin aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous êtes plutôt à combien de mois?
3 mois.
3 mois, oui, pardon, vous l'avez dit.
3 mois, voire parfois le dernier mois de vie et voire même parfois les derniers jours de vie. Il y a parfois des patients qu'on rencontre vraiment au seuil de la mort. Et effectivement, dans cette situation-là, on sait bien que on peut bien sûr prendre en charge les symptômes, mais tout ce qui est sur la question des trajectoires de soins, on ne peut pas du tout avoir d'impact. Donc l'idée, c'est vraiment... Alors même que dans la littérature, c'est largement démontré le bénéfice de ces interventions-là précocement pour améliorer la qualité de vie, bien entendu, des patients, mais aussi l'accompagnement des proches, etc. L'idée, c'est de savoir, des freins, il y en a plein, on les connaît, il y a les ressources humaines, il y a plein de choses, il y a la question du temps, évidemment. Mais l'idée, c'est justement d'arriver à trouver dans nos projets des leviers qui permettraient d'intervenir effectivement plus précocement et aussi peut-être de rendre cette intervention palliative plus acceptable auprès des patients et des proches, parce que eux aussi, dans leur représentation...
Ils ont cette vision de fin de vie, en fait.
Complètement.
Ouais, de cette association aux soins palliatifs.
Ce que nous, on voudrait arriver à déconstruire.
Bien sûr. Vous, Bettina Kudzer, en tant que biologiste et chercheuse, quel est votre travail dans ce projet? Quelle est votre part?
Alors, ma part, elle est venue d'un travail qui a été initié il y a 4 ans. Donc, j'ai une étudiante en thèse qui s'appelle Roxane Delpech, qui a travaillé sur les directives anticipées. Et en fait, l'objectif de la thèse, c'est qu'on se rend compte qu'en France, les directives anticipées qui font partie de différentes lois, notamment qui a été remisée la loi Claeys-Leonetti. Donc normalement, tous les Français sont censés rédiger ces directives anticipées pour exprimer leurs souhaits quant à la poursuite de leurs soins, si un jour ils ne pouvaient pas être en mesure de l'exprimer oralement. Et en fait, très peu de Français... écrivent des directives anticipées. Et la question de la thèse de Roxane Delpech était pourquoi ce désintérêt des patients pour ce dispositif. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en fait, écrire un papier tout seul dans son coin sur ces directives, mais c'est très, très difficile. Comment voulez-vous vous projeter? Si vous êtes en bonne santé, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez ou pas.
Et puis ça peut faire peur aussi.
Ça fait peur. Et si vous êtes déjà en oncologie, même quand les gens sont engagés dans un parcours de soins et qui voient que finalement le pronostic n'est pas si bon que ça, ils hésitent quand même à les écrire. Même quand on s'approche du moment où elle pourrait être nécessaire. Et en fait, il y a différentes craintes qui sont exprimées. Donc, on a fait des enquêtes auprès des patients et auprès des soignants. Savoir est-ce que les soignants, ça les aide d'avoir des directives anticipées pour prendre des décisions pour leurs patients,
etc. Et de fait, on imagine que oui.
Alors oui, pour les soignants, simplement, ça les aide à contrecarrer des volontés de la famille qui seraient opposées à la volonté du patient. Donc, ça les aide dans ces cas-là, des discussions avec la famille.
D'accord.
Mais sinon, la plupart des soignants, surtout les oncologues, ils savent ce que voudraient leurs patients parce qu'ils ont créé des liens avec eux depuis longtemps. Donc, ils savent. Et puis, les médecins sont raisonnables. Ils ne vont pas faire des choses qui sont inappropriées. Les Français craignent l'obstination déraisonnable.
Oui, toujours.
Mais en fait, l'obstination déraisonnable, c'est hors la loi déjà. C'est pas légal. Et puis, les médecins sont raisonnables. Ils ne vont pas maintenir des gens à souffrir pour rien. Donc finalement, pour les soignants, ça les aide, la discussion avec la famille. Mais sinon, dans leur pratique, ça ne les aide pas vraiment. Et pour les patients, souvent, ça les soulage de les avoir écrits parce qu'ils se disent que leurs volontés seront écoutées.
Et au moins, les choses sont claires.
Mais du fait de ce travail de Roxane, pendant 4 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ne peuvent pas écrire leurs directives sur un bout de papier, sur un coin de table, si quelqu'un ne les aide pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des discussions progressive, c'est-à-dire dans le temps, à différents moments dans le temps et dans le parcours du soin avec leur médecin, où ils vont affiner leurs souhaits pour leur fin de vie. Est-ce qu'ils aiment rester à la maison ? Est-ce que pour eux, c'est important de faire le tourmalet à vélo tous les jours ? Enfin, les souhaits des gens ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des gens qui sont ravis d'être dans leur salon à jouer aux cartes avec leurs petits-enfants et d'autres qui ont besoin de courir partout. Donc, ben voilà, il faut que ces souhaits s'expriment. Qu'est-ce que vous aimez ? Quelle est votre qualité de vie ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et ça, c'est des discussions sur le long terme.
Et c'est là qu'on parle aussi d'anticipation. Et c'est là qu'on parle
d'anticipation. Et c'est là que le projet directive anticipée s'est mêlé au projet anticipation des soins du docteur Bourgoin, enfin de Marie. Et donc, on a monté ce projet ensemble.
D'accord. Côté oncologie, qu'est-ce que vous apportez de particulier dans ce projet ?
Alors, c'est un projet là qu'on a travaillé vraiment en lien avec, très étroit, avec le département d'oncologie médicale et particulièrement le docteur Sarah Bétrian, qui elle est oncologue et s'occupe notamment des tumeurs gynécologiques. Et nous, notre constat, c'est qu'effectivement, même si on est convaincu de ce bienfait de l'anticipation, de la nécessité aussi de l'intervention palliative précoce dans les parcours de soins, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément formalisé, qu'on n'a pas non plus, il faut être honnête, on n'a pas non plus les moyens de rencontrer tous les patients qui sont en situation palliative et je crois que ce n'est pas forcément notre objectif non plus. L'idée, c'est de rencontrer ceux qui ont le plus besoin de nous, donc qui vont présenter des critères de complexité, soit sur le plan clinique, soit sur le plan, on va dire, psychosocial, familial ou autre. Ou des difficultés, bien sûr, à l'acceptation aussi du parcours de soins. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à formaliser un petit peu le moment opportun sur le parcours oncologique pour intervenir. Et puis ensuite, d'arriver à travailler ensemble. Donc là, il y a aussi vraiment la question de la collaboration avec de l'interdisciplinarité, mais avec les autres disciplines médicales et de savoir comment on peut accompagner le patient et ses proches dans un travail vraiment, main dans la main, entre guillemets. Ouais. Et aussi, on va pas se mentir, avec un souci qui est important, qui est aujourd'hui, on sait que le système de santé, c'est quand même quelque chose qui est... on connaît les conditions de travail des professionnels de santé, on sait combien c'est difficile, peut-être qu'on l'oublie un petit peu, enfin, bien sûr que c'est difficile pour les patients, mais c'est aussi très difficile pour les soignants. Annoncer une maladie grave, annoncer qu'on ne va pas guérir, ça a un impact émotionnel qui est majeur. Je pense que c'est peu dévoilé, mais c'est une véritable souffrance pour les soignants. Et donc l'idée, c'est aussi d'être... à plusieurs, pour pouvoir accompagner aussi, auprès des oncologues médicaux notamment, ce cheminement et ces difficultés émotionnelles et psychiques, et de ne pas les laisser seuls aussi face à ça, et à ce que les patients reçoivent, et réciproquement, ce que l'oncologue reçoit en termes de colère, parfois d'agressivité, de tristesse, de désespoir, mentale, sûr.
D'émotion. Voilà. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est tout le projet sur lequel vous travaillez et sur lequel d'autres chercheurs et d'autres médecins travaillent. Avec ce projet de loi sur la fin de vie, il va revenir au Sénat du 11 au 13 mai prochain. Comment cette loi va impacter votre projet de recherche ?
Alors ce sera surtout le travail de Lucie Sourza, donc qui est docteur en droit. Donc dans sa partie, elle va bien étudier le texte de loi et puis bien sûr les décrets d'application. Et parce qu'il va falloir aider les médecins à s'approprier cette nouvelle législation. Beaucoup de médecins sont opposés à une évolution de la loi, donc il ne faut pas se mentir. Donc comment ça va être perçu par les médecins ? Et justement, dans notre projet anticipation, nous avons un volet formation. Donc, qui va être monté notamment par Lucie et moi. Donc, on va monter une formation à destination des soignants, des médecins, pour leur donner, leur expliquer la loi, son périmètre, ses implications. Et puis surtout, on va faire des vignettes, c'est-à-dire on va engager des acteurs qui vont jouer les patients pour aider les médecins à réagir face à une demande d'aide active à mourir, alors que le médecin, lui, il est plutôt pour continuer les soins ou pour proposer...
Donc des petites mises en situation.
Comment le médecin, pour l'aider à annoncer une maladie grave, annoncer un arrêt des traitements spécifiques. Arrêt des traitements, ce n'est pas arrêt des soins, on n'abandonne pas les patients. Donc on arrête des traitements spécifiques, mais on prend toujours soin des personnes. Comment on va faire la transition hôpital-ville, parce que souvent, les médecins, les patients en fin de vie, ils vont plutôt être suivis par leur médecin de ville. Donc, comment se passe cette transition que les patients peuvent vivre quelquefois comme un abandon.
Donc, tous ces sujets-là vont être
dans la formation avec avec des acteurs, et puis on va aider les médecins à répondre à toutes les questions des patients et à ne pas se sentir désarçonné ou au contraire, susciter un peu moins d'émotion pour les aider.
Voilà, en tout cas.
Donc, il y a un grand volet formation pour les médecins.
Voilà, en tout cas, de quoi bien les accompagner. Merci beaucoup, docteur Marie Bourgoin. Merci, professeur Bettina Couder. Vous avez présenté ce matin votre travail de recherche sur la fin de vie et les soins palliatifs et insisté sur le fait que ces derniers ne sont pas réservés à la fin de vie. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.